vous propose une lecture, et pour découvrir un petit peu ce que je vais vous dire ce soir dans, concernant la vie chrétienne pratique, dans l'épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 3, verset 14. Là, vous avez trouvé. Alors, voici ce que dit l'auteur aux Hébreux. Nous sommes devenus participants de Christ. La version top dit, nous sommes devenus compagnons de Christ. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. La version top, la traduction œcuménique de la Bible dit, nous sommes devenus les compagnons de Christ pourvu que nous tenions fermement notre position initiale. On retient ça ? Nous sommes devenus les compagnons de Christ pourvu que nous retenions notre position initiale. Avec Olivier, à l'instant, on parlait des difficultés que beaucoup d'enfants de Dieu rencontrent aujourd'hui. Et c'est vrai qu'actuellement, nous ne sommes pas dans une ère de facilité. Dans le monde dans lequel nous vivons, en société, mais aussi spirituellement, dans le cadre de nos églises, dans ce qu'on peut vivre dans nos églises, dans le sens où on ne peut pas dire qu'il y a des milliers de miracles, on ne peut pas dire que ça marche facilement comme sur des roulettes, mais on entend parler de licenciements, même parmi les chrétiens, on entend parler de divorce, qui est dramatique, aussi parmi les couples chrétiens. On entend parler d'enfants, de jeunes de 18, 17, 19 ans qui s'étaient convertis puis qui rétrogradent. On voit aussi des gens qui s'attiédissent, on voit la foi qui s'étiole. Bref, on sent que ce sont des temps difficiles et la Bible nous enseigne que nous sommes parvenus à la fin des temps. Des temps douloureux, des temps difficiles, le chemin est étroit. Alors, la réflexion est celle-ci. Comment faire, chacun d'entre nous, et vous qui êtes pour la plupart jeunes, et c'est bien, hein, alors comment faire pour tenir bon? Est-ce qu'il y a des recettes? Est-ce qu'il y a des clés? Comment faire? On ne s'appelle pas tous Yom Kippour, David Wilkerson, Moïse. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est possible de tenir bon sans se laisser séduire par le péché, sans tomber, sans abandonner la foi à un moment donné alors qu'on en a marre, qu'on est saturé, qu'on est surbooké? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le secret, s'il y en a un, de Dieu pour nous? Et c'est cet aspect-là que je voudrais développer avec vous ce soir, parce que moi je crois, et vous aussi, que c'est possible de tenir bon. Dans la mesure où nous nous laissons saisir par les enseignements de la parole de Dieu et que nous ayons les bonnes bases. Donc je reviens à mon verset. Vous êtes les compagnons de Christ. Pourvu que vous teniez fermement votre position initiale. C'est quand même extraordinaire que le Seigneur nous enseigne que nous sommes ses compagnons. Je suis compagnon de Christ. Tu es compagnon de Christ. Christ t'accompagne, tu es avec lui. On marche ensemble. Mais il y a une condition importante que l'auteur aux Hébreux souligne. Attention, vous êtes les compagnons de Jésus pour autant que vous gardiez votre position initiale. Et ça veut dire quoi, garder sa position initiale? Ben c'est fort simple. Si Christ est mon compagnon, si je suis le compagnon de Christ, ma position initiale consistera à rester dans la compagnie de Jésus. Vous me suivez? Si Christ est mon compagnon, si je suis son compagnon, la Bible m'enseigne, attention, tu peux t'écarter de sa compagnie et finalement ne plus être son compagnon. Tu seras le compagnon de Christ pour autant que tu gardes ta position initiale. Et ta position initiale, c'est de rester en compagnie de Jésus. Alors comment tenir ferme les uns et les autres? Parce que nous allons vivre dans les temps qui vont venir des moments encore plus difficiles. Je ne suis pas venu pour vous apporter de bonnes nouvelles finalement. Je ne suis pas venu non plus pour vous démoraliser. il y aura des temps difficiles. Je ne sais pas si vous avez lu un livre de David Wilkerson qui l'a sorti dernièrement, là c'est assez impressionnant, la dépression qui va sévir dans le monde entier. Et il montre comment nous, les enfants de Dieu, il va falloir qu'on reste ferme. Et je suis persuadé que celui qui ne reste pas en compagnie de Jésus, dans la proximité de Jésus, eh bien celui-là sera balayé. Et il va y avoir un tri dans nos églises qui va être radical. C'est pourquoi, suite à notre conversion, il faut que nous apprenions, cela vous est enseigné par votre pasteur, il faut que nous apprenions à rester en compagnie de Jésus dans la position initiale. Quelqu'un a fait un petit dessin, j'ai trouvé ça intéressant, pour expliquer ce que ça veut dire que d'être dans la compagnie de Jésus, de rester dans notre position initiale et d'être proche de Jésus. Alors je ne sais pas si vous voyez, ce n'est pas un escargot, hein, mais il aurait fallu un tableau que je puisse vous faire ça. Vous voyez, c'est quand vous jetez une pierre dans l'eau, dans un lac, ça se répand en ondées après, hein, et de plus en plus loin. Et vous avez ici, dans le cercle le plus loin, Jésus est au centre. Vous avez dans le cercle le plus éloigné le mot « les multitudes ». Et cette personne qui a fait ce petit dessin explique que les multitudes, ce sont ceux qui s'approchent de Dieu que pour ce que ça leur rapporte. Ils suivent Jésus pour autant que Jésus leur donne ce qu'ils veulent au moment où ils veulent. Ça ne va pas plus loin. Autrement dit, Jésus est pour eux, eux ne sont pas pour Jésus. Si je vis, dit l'apôtre Paul, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Mais pour eux, finalement, c'est Jésus qui vit pour eux. C'est tout à fait différent. Et si on n'a pas compris qu'à partir du moment où on appartient à Jésus, notre vie ne nous appartient plus, et que tout est centré sur Jésus, sur ce qu'il attend de nous, sur les besoins de Jésus, on va être mal les uns et les autres. Il y a un texte dans le livre d'Ésaïe au chapitre 4 qui est curieux. Il est dit, sept femmes, au verset 1, saisiront un homme. Sept femmes saisiront un homme. Et ces femmes, en ce jour-là, diront à cet homme, nous nous occuperons de notre nourriture, nous nous vêtirons, nous nous chargerons de nos vêtements, mais ce que nous voulons, c'est porter ton nom. Et vous avez des quantités de chrétiens comme cela dans le monde entier, qui finalement ne veulent pas de la nourriture de Jésus, le pain venu du ciel. Ils ne veulent pas des vêtements dont Jésus veut leur revêtir, vêtements de sainteté, vêtements de consécration, vêtements de mise à part dans la société dans laquelle nous sommes. Ils veulent des vêtements à eux finalement, mais ce qui les intéresse c'est de porter le nom de l'homme. C'est-à-dire avoir tous les avantages, avoir tous les privilèges. Ça fait partie de la multitude, de ceux qui, finalement, s'approchent de Jésus que pour ceux que ça leur rapporte, pour les pains et pour les poissons. Ensuite, vous avez une autre catégorie, les 70. Alors les 70, eux, se sont approchés de Jésus. Je dirais, ils ont compris l'appel général de Dieu. Les 70 sont finalement à l'ABC de la vie chrétienne. Ils sont capables de dire le Notre Père. Et même de le dire mécaniquement, Notre Père qui est aux cieux, avant de partir au boulot, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite. Ça ne va pas plus loin que cela. Et finalement, se tenir devant Dieu pour eux, c'est pas plus important que tondre la pelouse, que de faire la vaisselle, que de laver sa voiture, que d'aller à Disneyland, que d'aller à Poitiers au Futuroscope, que ce soit super chouette. Mais c'est pas plus important. Donc c'est l'ABC, ça va pas plus loin. Et finalement, ils sont bien éloignés encore de la véritable intimité avec Jésus. Puis il y a les 12. Alors il y a la multitude. Ensuite, il y a les 70. Vous voyez ? Ensuite, il y a les 12. Ah, les 12 sont plus près du maître. Ils sont davantage dans la proximité du maître, davantage en compagnie du maître. Et ce qui est étonnant quand même, c'est qu'à un moment donné, Jésus les surprend dans une conversation. Mais de quoi vous entreteniez-vous en chemin ? ils étaient en train de savoir qui était le plus grand parmi eux. N'importe quoi. Ils avaient des gens qui sont au rayon de prière. Ils sont plus avancés que la multitude. Ils sont plus avancés que les 70. Ils sont allés plus loin que l'ABC. Ils ont pigé des choses. Ils réalisent que la réunion de prière, c'est important. Une vie seule avec Dieu, c'est important. Un moment de prière, d'intimité avec Dieu, la lecture de la parole de Dieu. Ils vont même aux jeûnes, imaginez-vous, à la réunion de jeûne et prière. Ils ont pigé ça. C'est pas tellement une option pour eux. Ils ont compris ce chemin-là. Mais en même temps, vous êtes surpris. Ils louent le Seigneur même. Vous les entendez prier, peut-être même prophétiser. Mais, parallèlement à cela, ils sont capables de vous faire des trucs étonnants. De vous piquer une crise de nerfs. De juger, de critiquer, d'avoir la médisance. Finalement, c'est pas tout à fait crucifié là-dedans. Vous voyez ? Ils ont compris l'importance de venir vers Jésus, mais il y a encore beaucoup de charnel chez eux. Et puis il y a les trois, les multitudes, les 70, les 12, les trois. C'est qui les trois d'après vous ? Pierre, Jacques et Jean, qui étaient privilégiés par rapport aux autres dans le sens où ils avaient une passion pour Jésus. Et vous voyez, ce qui est important pour chacun de nous, c'est que nous ayons une passion pour Jésus. Il faut vraiment que le Seigneur mette par le Saint-Esprit une passion pour Jésus. Vous voyez, je ne dis pas de l'excitation, mais je dis une passion. Il faut que vous soyez passionné par Jésus. Les trois étaient passionnés. Et à partir du moment où tu nourris dans ton cœur une passion pour Jésus, le Seigneur va t'inviter à faire des expériences avec lui. Tu vas être de plus en plus près. Il y a eu le moment de la transfiguration. Il a appelé Pierre, Jacques et Jean avec lui, Seigneur. Les autres n'ont pas vu ça, n'ont pas fait cette expérience. Mais Pierre, Jacques et Jean l'ont fait. Et pour d'autres événements encore, si tu as une passion pour Jésus, le ciel va s'ouvrir. Tu vas comprendre des tas de choses. Tu vas remettre tes frustrations de côté. Il y a trop de chrétiens, finalement, qui sont dans les rangs des multitudes, des 70, des 12, qui vivent avec beaucoup d'amertume, de frustration, d'insatisfaction. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Ils n'ont pas compris quelque chose d'important. Et si tu as une passion pour Jésus, il va t'aider à remporter ses victoires dans ton être intérieur. Et puis il y a Jean. Vous avez vu où il est Jean ? C'est lui qui est le plus près. Vous savez pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait Jean un jour ? Vous en souvenez ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Et là c'est super parce que j'entends quelque chose battre. Ça te rassure, hein ? J'entends quelque chose battre. Et Jean, il avait une intimité particulière avec le maître. Il n'était pas meilleur que les autres. Mais, contrairement aux multitudes, aux 70, aux autres encore, il a posé à un moment donné sa tête sur la poitrine de Jésus. Et il a entendu battre le cœur de Jésus. Et je pense qu'il y a pour chacun de nous une place dans le cœur de Jésus. Je ne vais pas te demander de le faire, mais tu pourrais dire à ton voisin, tu sais, il y a une place pour toi dans le cœur de Jésus. Il faut se le dire aussi pour nous, il y a une place pour nous dans le cœur de Jésus. Et je suis persuadé que Jésus, quand il a vu Jean, le jeune Jean, il était jeune, c'était le plus jeune de tous, s'approcher de lui, poser sa tête contre lui comme ça, il a dû être ému de compassion, Seigneur. Et voyez-vous, quand on pose sa tête sur la poitrine de Jésus comme ça, ça change votre vie. Ça change votre vie. Parce que vous sentez le brisement du cœur de Jésus. Tout comme sa joie, sa passion pour les âmes, sa passion pour son Église, pour son royaume. Mais en même temps, le brisement du cœur de Jésus. Quand vous posez la tête sur le cœur de Jésus, vous n'êtes plus le même. Vous ne voyez plus le monde pareil. Vous ne voyez plus vos frères et sœurs pareils. Vous ne voyez plus votre pasteur pareil. Vous ne voyez plus les âmes de la même manière. L'Église, la vie de l'Église, l'investissement dans l'Église de la même manière. Vous entendez battre le cœur de Jésus. Et quand l'un tombe dans une Église, ça vous fend le cœur. Ça vous brise l'âme. Parce que vous êtes en communion avec le cœur du Maître. Voyez. Quand une âme se convertit, il y a de la joie intense dans votre cœur parce qu'en même temps, vous entendez battre le cœur du Maître. Quand l'un de vous a une grande victoire et qu'on entend parler de cette victoire, il y a quelque chose qui tressaille là-dedans parce qu'on entend le cœur du Maître. Vous voyez ? C'est ça garder sa position initiale. Être auprès de Jésus. Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais mes amis. Nous sommes aussi proches de Dieu que nous choisissons de l'être. Soit que nous choisissons de l'être comme la multitude, les 70, les 12, les 3, Pierre, Jacques et Jean, ou Jean lui-même, tout seul. C'est une question de choix. Je ne sais pas où vous en êtes. Peut-être que si je te pointe du doigt comme ça, tu fais partie des multitudes. Tu t'approches de Dieu pour ce qu'il te donne, pour ce qu'il te rapporte. Peut-être que si je te pointe du doigt comme cela, pour toi, tu fais partie de celui qui est comme Jean, etc. On est aussi proche de Dieu qu'on choisit de l'être. Jésus donc nous dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis. Et le terme qu'il utilise là sert à désigner le conseiller le plus proche parmi le cercle d'hommes de confiance de Dieu. Dans la cour royale, vous aviez des serviteurs. Mais les serviteurs gardaient une distance par rapport au roi. Et puis, parmi ce cercle d'hommes, parmi les plus fidèles, il y avait les intimes du roi. Ils étaient plus que des serviteurs. À la base, ce sont des serviteurs. Mais leur relation, leur contact avec le roi diffère des serviteurs. Et ils entrent donc, comme dit la Bible, dans le conseil secret du roi. David avait des hommes qui étaient entrés dans son conseil secret. Il y avait aussi des gens qui mangeaient à sa table, comme Mephibosheth. Donc, une intimité particulière avec le roi. La Bible dit dans le livre des psaumes, psaume 25, verset 14, écoutez bien, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Une autre version anglaise dit, les communications intimes de l'Éternel sont pour ceux qui le craignent. Les communications intimes de l'Éternel. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire par tout cela? Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Est-ce que c'est gagner des âmes? Oui, c'est important. Est-ce que c'est exercer des dons spirituels? Oui, c'est important. Est-ce que c'est être baptisé du Saint-Esprit, parler en langue? Oui, c'est très bien. Est-ce que c'est bien élever ses enfants? C'est très bien. Est-ce que c'est avoir un bon témoignage? C'est très bien. Est-ce que c'est être un bon père de famille? C'est très bien. Mais quel est le but suprême que Dieu veut pour chacun de nous avant tout cela? C'est que nous devenions les amis de Dieu. Et c'est que nous développions l'amitié de Dieu. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent, pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui le révèrent. Dieu veut être notre ami. Et Dieu veut que nous soyons ses amis. Est-ce que j'ai le droit de dire, finalement, que Dieu a peut-être peu d'amis? Il a des serviteurs. Peut-être peu d'amis. Peut-être peu de gens. Des individus comme Jean, qui placent leur oreille sur la poitrine du Maître. Il nous faut donc désirer l'amitié de Dieu plus que tout. Et depuis que j'ai compris cela, souvent dans mes prières, je dis, Seigneur, je veux être ton ami. Avant d'être un grand pasteur, entre guillemets, un grand évangéliste, entre guillemets, un grand orateur, entre guillemets, tout ça, ça vaut rien finalement. Mais ce que Dieu veut, c'est pas ça pour moi. Ce n'est pas ça pour Olivier ni pour les autres. C'est pas ça, ils s'en fichent à la limite. Ce qui est important, c'est que je sois l'ami de Dieu. Ce qui est important, c'est que tu sois l'ami de Dieu. Et pour être l'ami de Dieu, tu dois absolument tenir ferme dans ta position initiale, de laquelle le diable voudrait te faire sortir absolument. Et tu as réalisé, crois-moi, que souvent, dans un séminaire, tu as été fortifié, dans un culte, tu as été fortifié, le Saint-Esprit t'a parlé, tu as pris de bonnes décisions, et puis tu as commencé à développer ce contact avec Dieu. Tu t'es peut-être levé un petit peu plus tôt que d'habitude, un petit quart d'heure, ou tu t'es couché plus tard, un petit quart d'heure, une demi-heure plus tard, parce que tu as cherché Dieu. Tu as même eu la force d'éteindre ton ordi. Tu as même eu, au miracle, la force d'éteindre ta télé, ta vidéo, ton DVD, pour chercher Dieu. Waouh ! C'était génial. Et finalement, tu t'es fait du bien, tu as découvert des choses. Peut-être que tu n'as rien eu en retour, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais tu as commencé à développer l'amitié avec Dieu. Ça réjouit le cœur de Dieu. Et ça rend du malade le diable. Parce qu'à partir du moment où tu développes l'amitié avec Dieu, tu deviens dangereux pour l'enfer. Tu deviens dangereux pour les ténèbres. Tu as la passion de Dieu, la passion de Jésus. Tu entends battre le cœur de Jésus. Tu commences à haïr le péché. Plus de compromis, plus rien. Tu vis en osmose, en intimité avec ton maître. Tu deviens une cible du diable. Et qu'est-ce qu'il va faire le diable? Il va tourner autour de toi. Il va te faire douter. Il va te dire que ça ne sert à rien. Il va te dire que tu es faible. Il va te dire que tu es nul. Le but, c'est de te faire sortir de ta position initiale. Pour que tu ne sois plus en compagnie de ton compagnon préféré, Jésus-Christ. Que Dieu nous aide les uns et les autres à désirer l'amitié de Dieu plus que tout. David est un exemple extraordinaire. Vous avez vu dans les psaumes, vous trouvez des verbes « je te désire »,« je désire »,« désire »,« soupir », »,« soif », »,« faim ». Lorsque David a été roi d'Israël, à Jérusalem, avant son palais, avant sa couronne, avant ses vêtements royaux, avant sa cour, avant ses femmes, il a eu un désir. Lequel? C'est un des plus beaux désirs que nous trouvons dans le cœur de David. Celui de ramener l'arche de l'Alliance, qui avait été oubliée pendant 70 ans et qui était restée à Silo, dans la ville de Silo. Et David s'est dit, ça ne me sert à rien d'être roi sans la présence du maître. Ça ne me sert à rien d'avoir un palais. Ça ne me sert à rien d'avoir une grande armée. Ça ne me sert à rien d'élever des forteresses autour de Jérusalem. Ça ne me sert à rien si l'arche qui a été oubliée ne revient pas à Jérusalem. Et qu'est-ce que l'arche? Elle symbolise pour nous, on le sait, la présence du Seigneur. Ça ne sert à rien de témoigner. Ça ne sert à rien de travailler pour Dieu. Ça ne sert à rien de faire ceci et faire cela, de faire des kilomètres, d'aller là et de faire encore d'autres choses. Ça ne sert à rien d'être à l'école du dimanche. Ça ne sert à rien peut-être de participer au chant. Si tu n'as pas la présence du maître, ça ne sert à rien. La différence, c'est que nous puissions ramener toujours l'arche au bon endroit. À l'époque, c'était Jérusalem, mais pour nous, c'est notre cœur. Et si c'est ta passion, ton désir d'aller chercher l'arche, de faire cet effort, ça demandait un effort. De la marche à pied, d'aller porter l'arche. Bon, ça demandait un effort, ça demande un effort. Il faut qu'on prenne sur nous, il faut savoir ce qu'on veut les uns et les autres. Mais il faut que nous soyons des chercheurs de l'arche. Je ne fais pas allusion au film, hein. Des chercheurs de l'arche. Il y a au milieu de vous des hommes et des femmes qui ont été chercher l'arche. Qui cherche Jésus. Celui qui me cherche, trouve. Quelqu'un qui cherche le maître et qui ramène l'arche dans l'église, qui ramène l'arche dans la maison, qui ramène l'arche dans la ville de Nantes, qui ramène l'arche dans l'université où tu travailles, qui ramène l'arche dans le lieu de travail où tu es. La présence du Seigneur. Ne va pas au boulot sans la présence du Seigneur. Ne fais rien sans la présence du Seigneur. La priorité des priorités, c'est de développer l'amitié de Dieu. L'amitié avec Dieu, de rester dans sa compagnie. Alors, David, à un moment donné, dit, je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment. C'est de rester toute ma vie chez lui, pour jouir de son amitié, et guettait sa réponse de son temple. David, ce n'était pas un mystique, un farfelu, c'était un roi responsable. Responsable de son peuple, responsable de la trésorerie, responsable de plein de choses, il supervisait plein de choses, c'est un homme d'affaires, David. Mais c'était un homme qui avait un soupir dans son cœur, rester en compagnie de son maître, de Dieu. Être l'ami de Dieu, comme Abraham. Dans le Cantique des Cantiques, vous avez le verset suivant. « Je suis malade d'amour, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. » C'est vrai pour les épouses, c'est pas vrai, hein? Mais c'est spirituel aussi pour nous. « Je suis malade d'amour. » Il y a une passion là, hein? Une vraie passion. « J'ai trouvé celui que mon cœur aime, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. » Alors je vais conclure cette première partie avec ce verset que je vous propose de lire dans le livre des Proverbes. Proverbes 21, verset 22. Ça va jusqu'à maintenant? Donc si on retient ça, premier point, développer l'amitié avec Dieu. Rester fermement dans notre position initiale, c'est-à-dire demeurer coûte que coûte en compagnie de Jésus, même si le diable rugit, même si les circonstances sont défavorables, il faut tenir ferme dans sa position initiale. Je reste en compagnie de Jésus. Je reste, même si je ne reçois rien, même si c'est dur, même si j'ai l'impression que le ciel est des reins, je suis en compagnie de Jésus. Proverbe 21, verset 22. Le sage monte dans la ville des héros. On va dire premièrement. Et puis vous allez comprendre pourquoi. Premièrement, le sage monte dans la ville des héros. Deuxièmement, et il abat la force qui lui donnait de l'assurance. Alors pour bien comprendre, il faut lire une autre version qui dit « Le sage, premièrement, escalade une ville pleine de guerriers. » Ça va ? Deuxièmement, il fait tomber la citadelle où elle mettait sa confiance. Ça veut dire quoi? Pourquoi je vous dis ça? Vous allez comprendre. Les villes dans l'Antiquité comprenaient une muraille extérieure qui entourait la ville. Quelqu'un qui était sage à l'époque, un sage stratège, militairement parlant, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, c'est ce que nous dit le texte. Le sage monte dans la ville des héros. Et pour monter dans la ville, il fallait escalader la muraille extérieure de la ville. On est bien d'accord? Le sage escalade une ville pleine de guerriers. Donc, si je veux conquérir une ville, il faut que je franchisse la première muraille. Et si je l'ai franchie, malgré les guerriers qu'il y avait dessus, je les ai tous vaincus, je ne possède pas encore la ville. Et alors, c'est pourquoi l'Écriture dit, deuxièmement, il abat la force que lui donnait de l'assurance, qui lui donnait de l'assurance à cette ville. Mais quelle est cette force qui donne de l'assurance à cette ville? Dans l'autre version, il est dit, le sage, deuxièmement, fait tomber la citadelle où la ville mettait sa confiance. Alors, une fois qu'il a escaladé la muraille extérieure, le sage guerrier se dit, j'ai pas encore tout à fait conquis la ville, elle m'appartient pas encore. Deuxième étape, il faut que je m'empare de la citadelle qui est au centre de la ville. Les villes dans l'Antiquité avaient donc une muraille, première muraille, et quand la première muraille avait été conquise, tous les villageois allaient dans le palais ou dans la citadelle au centre de la ville. Et c'était bien blindé de partout. Et le sage guerrier, quand il avait franchi la première étape, se disait maintenant, attaquons-nous la deuxième étape. Il faut que nous nous emparions de la citadelle au centre de la ville. Et quand finalement il s'emparait de cette citadelle et que ceux qui étaient dedans se rendaient, le sage avait conquis la ville. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai le sentiment que pour beaucoup de chrétiens, Jésus, le sage guerrier, s'est emparé de la première muraille dans notre vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous lui avons cédé, finalement, la muraille qui entourait notre cœur. Puis, bon, on s'est estimé converti. On s'est dit, j'aime Dieu. Jésus m'a conquis. Jésus m'a vaincu. J'ai capitulé devant le Seigneur. Je suis pardonné de mes péchés. Mais, peut-être qu'on en est resté là, finalement. Ou tout au moins, on a donné au Seigneur la possibilité de conquérir que cette muraille-là. Il y a une chose qui est tombée, c'est tout. Mais la citadelle qui est au plus profond de nous, elle n'a pas été conquise. Ce qui fait que il y a des carences dans ma vie spirituelle. Il y a des carences. Il y a une vision que je n'ai pas. Un engagement que je n'ai pas. Un sérieux que je n'ai pas avec Dieu, peut-être. Quelque chose qui manque. Une dimension qui me manque. Pourquoi ? Tant que je ne permettrai pas à Jésus de conquérir la citadelle qui est encore au centre de mon cœur, ben finalement Jésus n'aura pas tout conquis de moi. Voyez la différence. Heureux celui qui permettra au Saint-Esprit d'aller tout au fond, vraiment au fond. Et quand Jésus va au fond et quand on le laisse lire au fond tout ce qu'il y a là-dedans, il discerne des trucs et des machins qui ne vont pas. Des trucs et des machins auxquels nous devons renoncer. Et puis des habitudes spirituelles que nous devons acquérir et auxquelles nous devons nous cramponner. Et là, finalement, il n'y a plus de Dancy, je suis un petit peu avec Dieu, un petit peu dans le monde, je ne suis pas trop, bref. Jésus a tout conquis. On lui appartient entièrement. On ne peut plus vivre sans lui. Notre carburant, c'est le Saint-Esprit. Notre respiration, c'est la prière. Notre vue, c'est la gloire de Jésus. On est saisi. La citadelle a été vaincue au plus profond de nous. Et c'est cela qu'on appelle une vraie conversion. Et à partir de là, eh bien, on comprend ce que ça veut dire qu'être ami de Dieu, ami de Jésus. On est en communion. Il peut y avoir des hauts, des bas, des découragements, on reste des hommes, mais on est dans le plan de Dieu, on va grandir, on sait qu'il y a quelque chose au bout. Merci Seigneur. Premier point, est-ce que tu as développé l'amitié avec Dieu? Est-ce que Jésus est ton ami, mais est-ce que toi, en retour, tu fais en sorte d'être l'ami de Jésus? Et c'est bon de pouvoir lui dire, Seigneur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je veux être ton ami. Moi, ça me fait du bien de lui dire de plus en plus, Seigneur, je veux être ton ami, avant tout le reste. L'essentiel, c'est ça, finalement. C'est pas l'extérieur, l'essentiel, c'est que je sois ton ami. Et puis, quand tu monteras au ciel vers le Seigneur, il te regardera, et il pourra te dire, tu as été mon ami. Tu as été mon ami. Tu as partagé une vraie communion. C'est l'essence même de la vie chrétienne. Si on n'a pas compris cela, on passe à côté du but essentiel de notre marche avec Dieu. Puisque Jésus donne lui-même la définition de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Et le verbe connaître, en hébreu, c'est le verbe pénétrer. Adam connu Ève. Excusez-moi, je parle à des adultes. Ça veut dire que Adam pénétra Ève. C'est ça que ça veut dire. C'est qu'ils te connaissent. C'est-à-dire que nous pénétrions la personne même de Dieu dans toute sa connaissance par un esprit de sagesse et de révélation. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils. C'est ça, avoir la vie éternelle. C'est ça. C'est devenir les amis de Dieu le Père, les amis de Jésus. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Les communications intimes de l'Éternel sont pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui veulent eh bien, vivre cette dimension-là. Amen.
Amen.
Amen. Alors, ça c'est la théorie. Maintenant, après, on va passer à la pratique. Ça va jusque-là? Très bien. On va ouvrir la parole maintenant dans le livre de la Genèse. Maintenant, pratique. Thank you. La pratique. Genèse 19, 27. Genèse 19, 27. Comment faire ? Alors là, c'est un grand chapitre, hein, on ne peut pas tout voir parce que c'est énorme cela, mais comment faire pour être les amis de Dieu ? Genèse 19, verset 27. Il est dit, Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. C'est bon, ça rentre ?
Oui.
Alors, Abraham se leva, pourquoi ? Pour être en présence de l'Éternel. C'est ça le verset, hein. Il se lève pour être en présence de l'Éternel, pour être l'ami de Dieu, parce que Abraham, c'est bien l'ami de Dieu. Il se leva. C'est pas le Seigneur qui l'a levé, vous êtes d'accord ? C'est lui qui s'est levé, parce que devenir l'ami de Dieu est le fruit d'un choix. Ça ne va pas vous tomber comme cela par un coup de baguette magique. Votre pasteur peut vous faire les plus beaux messages que vous n'ayez jamais entendus sans que vous vous leviez, vous, personnellement, pour chercher le Seigneur. Et la vraie vie chrétienne, c'est justement de prendre acte des choses que nous entendons. Je me souviens de ce vieux pasteur, un homme remarquable, qui a connu des moments glorieux au cours de sa prime jeunesse, avec des hommes de Dieu d'une trempe particulière, et il entendait ces hommes de Dieu, il était tout jeune, il entendait ces hommes de Dieu qui avaient une onction remarquable. Il lui tardait d'aller chez lui, de se mettre sur ses genoux, pour mettre en pratique ce qu'il venait d'entendre. Autrement dit, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Dieu ne fera pas tout à notre place. La vie chrétienne est une question de choix. La qualité de notre vie chrétienne est une question de choix. Et nous ne pourrons pas dire au ciel, je ne savais pas, ou quoi que ce soit d'autre. Le Seigneur nous dira, tu n'as pas fait les bons choix. Donc il faut avoir un cap, un bon cap, pour chacun de nous. Si nous n'avons pas d'objectif dans notre vie spirituelle, nous allons être des consommateurs passifs. Nous ne progresserons pas. Nous n'irons pas bien loin. Mais Jésus veut nous donner sa vision. Et quand on a une vision, on a un objectif. Notre objectif doit être celui de devenir de plus en plus et de mieux en mieux les amis de Dieu. Et il ne faut pas s'écarter de cet objectif, d'où le texte que nous avons lu tout à l'heure, pourvu que vous gardiez votre position initiale. Imaginez que de Paris je prenne l'avion et que je veuille me diriger vers New York. Mais voilà que le pilote se trompe d'un degré au départ. Vous êtes d'accord ? Eh bien, je suis capable d'atterrir en Argentine ou je ne sais pas où, pour un degré d'erreur au départ. Ça va vite. Et finalement, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas gardé le cap, leur objectif. Ça tient à peu de choses, finalement. Voyez ? Donc il est important de garder un cap, garder notre position initiale. Donc ce n'est pas le Seigneur qui l'a levé. Le Seigneur ne le fera pas pour toi. Lui désire ta vie, il désire ton cœur, il désire tes sentiments, il désire tout ton être. Mon fils, donne-moi ton cœur, dit la Bible. Mais si toi tu ne le veux pas, il te fera pas. C'est dommage, tu vas vivre une vie chrétienne médiocre, minable, sans expérience. Ça ne va pas brûler chez toi, tu ne vas pas communiquer grand-chose, tu vas être passif, lourd ou lourde dans la vie de l'Église, c'est tout. Et quand tu auras des enfants, ils ne vont pas être très marqués par ta piété. Bref, David, dit la Bible dans le livre des Actes, a contribué à servir les desseins de Dieu dans sa génération. Je ne sais pas si tu contribues à servir les desseins de Dieu dans ta génération. Mais pour que David et pu ainsi contribuer à servir les desseins de Dieu dans sa génération, c'était celui qui avait ramené l'arche justement, celui qui avait une passion, celui qui voulait vivre avec son divin ami, l'Éternel. Donc ce n'est pas le Seigneur qui l'a levé. Ce ne sont pas non plus ses amis, sa femme, Sarah. Lève-toi, Abraham, pour chercher le Seigneur. Nous ne devons pas faire dépendre notre piété de nos parents chrétiens, ou de notre épouse chrétienne, de notre mari chrétien, de nos amis, de notre pasteur. Non. Ni même des circonstances. Et même si les circonstances sont tout à fait défavorables pour toi, ça ne t'empêchera pas de te lever pour chercher l'Éternel. Alléluia. Hein? C'est un automatisme. Qu'est-ce que tu fais le matin quand tu te lèves? Ben, tu prends des cornflakes. Ou tu prends, je ne sais pas moi, du Nutella, du chocolat, tu te laves, bref, tout ce que tout le monde, tu prends ton café. Bon, c'est un automatisme, on a des automatismes, on prend son boulot, on prend sa voiture, le métro, le bus, bref, après le midi, on va manger, on va au resto U pour les étudiants. Il y a des automatismes dans notre vie. Eh bien, je pense que le Seigneur voudrait nous habituer à des automatismes spirituels. Et bien souvent, finalement, la deuxième partie de notre vie est constituée d'habitudes que nous avons prises lors de la première partie. Vous me suivez ? Et ceux qui déjà, dès leur conversion, ont mis les bases à la bonne place, sont des gens qui cherchent Dieu, des gens qui sont passionnés par Jésus, des gens qui ont donné la priorité à Jésus, des gens qui sont là, envers et contre tout, devant le Seigneur, à la maison, dans leur église, la deuxième partie de leur vie, en général, vous les retrouvez à la même place. Ils ont gardé leur position initiale. Mais si lors de leur première partie de vie, finalement, c'était chaotique, la porte est quand même ouverte, la grâce de Dieu est là. Mais, vous voyez, d'où la nécessité d'acquérir dès le départ les bons automatismes. Il faut que tu te lèves pour chercher Dieu. C'est le fruit d'une décision. Il n'y a rien de magique. On aura peut-être beau prier pour toi, ça ne changera rien. Tu vas entendre le meilleur prédicateur du monde, ça ne changera rien. Ce qu'il faut, c'est que toi tu prennes une décision. Tant qu'on n'a pas compris cela, on n'avancera jamais. Et à partir du moment où tu te dis « Je suis un être responsable, Dieu n'a pas fait de moi un automate, une marionnette, un pantin. Il m'a donné une identité, il m'a donné une intelligence. Il m'a donné une capacité de choix. Je suis un être libre en lui. Et dans ma liberté, je fais le choix d'être son ami. Et pour cela, je me lève comme Abraham pour chercher la présence du Seigneur. » Alors il se lève quand ? Abraham se leva de bon matin. Alors je ne sais pas à quelle heure, 3 heures, 2 heures, 1 heure, 5 heures, 6 heures, je m'en fiche. Il y en a qui sont capables de se lever à 3 heures et qui peuvent entamer leur journée. Moi je ne peux pas. C'est pas ça le problème. C'est pas l'heure à laquelle tu vas te lever le matin qui importe aux yeux de Dieu. C'est pas ça. Je pense que dans notre texte, l'idée est que finalement, la première chose importante pour Abraham, dès le matin, c'est de chercher Dieu. Il veut nous montrer que c'est important. La réunion la plus importante, là, avec Abraham, c'est celle-là. Après, il pourra avoir un roi, le roi de Sodome, le roi de Gomorre, il pourra avoir le président Sarkozy, il pourra avoir son directeur d'entreprise, il pourra avoir son professeur, le directeur de l'université. C'est moins important que le fait d'avoir rencontré le Dieu de l'univers. C'est moins important, vous comprenez ? Le plus important pour nous, la rencontre la plus importante pour nous, c'est celle qui nous unit à notre sauveur. C'est ça le plus important. Le reste est secondaire. Pas inutile, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais c'est secondaire. La première rencontre, c'est celle avec notre sauveur. C'est important. Abraham se leva de bon matin pour chercher le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est ça le plus important. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de John Knox. C'était un revivaliste du 16e ou 17e siècle, je crois. Et cet homme, il était en kikinant pour la reine d'Écosse. C'était une fille mondaine, légère, païenne, quoi, paillarde. Et John Knox était un homme qui, comme Abraham, considérait que sa rencontre avec Dieu était plus importante que toutes les autres rencontres. Et quand il était dans la rue, John Knox dénonçait les exactions de la reine d'Écosse. Un peu comme Jean-Baptiste avec Hérode autrefois, vous savez, qui dénonçait tout ce qu'Hérode faisait, il n'a pas le droit de faire ceci, etc. John Knox faisait pareil. À un moment donné, la reine, qui avait 16 ans à l'époque, en a eu marre. Je vais choper ce gars-là. Et il a été pris par des soldats qui l'ont amené à la cour royale. Vous imaginez John Knox, cet enfant de Dieu, cet homme de Dieu. Et John Knox, impassible, est devant elle. Et alors elle lui dit, j'ai droit de vie et de mort sur toi. Je peux te torturer, je peux t'écraser, je peux te tuer. Ta vie est entre mes mains. Autrement dit, c'était des menaces. Et lui, il était impassible. Il ne bronchait pas. Et quand elle lui a permis de parler, il lui a dit, tu es dans le péché. Tu es dans le péché. Vous imaginez tous les grands de la cour, tout ça, qui étaient terrorisés et qui se disent, c'est pas possible. Il avait une autorité de Dieu, cet homme incroyable. Et après avoir dit, tu es dans le péché, il a tourné ses talons et il est parti. Personne ne l'a touché. Dieu n'avait pas permis que quelqu'un le touche. Et alors qu'il partait, elle a dit, ça ce sont les historiens qui le disent, vous imaginez un peu? Cette femme, reine d'Écosse, a dit, je crains plus les prières de John Knox que toutes les armées d'Angleterre. C'est extraordinaire. John Knox n'avait que faire de la reine d'Angleterre, finalement, dans sa rencontre. Il avait rencontré le roi des rois, l'essentiel. C'était ça la plus grande rencontre. Et à partir du moment où tu rencontres le roi des rois, ou les amis du roi des rois, il y a quelque chose en toi qui est divin, qui est inexplicable. On ne peut pas l'expliquer, c'est de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas besoin de faire du cinéma, ni du théâtre, ni de faire quoi que ce soit d'autre. Il y a eu un revêtement, une onction, une bénédiction sur ta vie. Tu vas chercher du pain à la boulangerie, tu as quelque chose en toi. Et certains vont le découvrir. Il y a des collègues de travail qui vont se dire, mais quelque chose ce bonhomme-là. Il y a quelque chose, elle a quelque chose cette femme. Et c'est indéniable quoi. Il y a quelque chose de Dieu. Alléluia. Amen. Et ça, c'est dans la rencontre avec le Maître. Abraham se leva, c'est son initiative. De bon matin, c'était la chose la plus importante. Chercher, premièrement, le royaume de Dieu, nous dit Jésus. Ensuite, il est dit, Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Pour aller au lieu. Moi, je crois qu'il faut que nous ayons notre lieu de rencontre avec Dieu. Un jour, je suis allé faire une visite chez une sœur, avec mon épouse. Elle nous a fait visiter sa maison. Alors moi, ce n'est pas tellement mon truc, je vous assure. Ma femme a été enchantée. Elle aime bien regarder les maisons, commencer à décorer, tout ça. Bon, moi, c'était pas mon truc. Bon, mais j'ai suivi comme un petit chien, les petites dames. Et puis, je disais, oui, c'est bien, oh, mais c'est très joli. Et à un moment donné, la sœur, elle me montre un endroit où il y avait différentes bibles, des versions différentes, le calendrier biblique, du matériel, quoi. Du matériel biblique, avec une petite table, avec un fauteuil, elle me dit, frère, alors là, ça commence à m'intéresser. Frère, tous les jours, ça, ici, frère, c'est mon sanctuaire à moi. C'est mon petit lieu à moi que je me suis confectionné. Et c'est là que je passe du temps avec mon Dieu. Oh, ça m'a réjoui. Je me suis dit, ça, c'est bien. Avoir son lieu, ce peut être un petit réduit de rien du tout, peu importe, avoir son lieu. Autant que faire se peut, on n'a pas sa communion avec le Seigneur devant la télé allumée. Il y a trop de chrétiens qui ont la télé allumée du matin jusqu'au soir. Ça m'est arrivé de faire des visites, je ne pouvais pas entendre la personne que je visitais tellement la télé était forte. Et il a fallu que j'ose lui dire, écoutez, est-ce que vous pourriez baisser un peu parce que je vous entends mal. Ouais, c'est comme ça. Alors si tu es là devant ta Bible, Abraham, ouais, John, se leva de bon matin. Ouh là, c'est pas mal. Et après tu continues. Ça colle pas. Il faut que ce soit un sanctuaire, un lieu où tu n'es pas égaré par toutes sortes d'autres choses, où tu entends des bruits divers. Il faut que tu aies ton lieu à toi, quel qu'il soit, que c'est ta cuisine, c'est peu importe. Et Jésus va plus loin, parce que le Seigneur dit, entre dans ta chambre, ferme la porte. Mais ça peut être ton cœur, tu peux être dans la rue, t'as contact avec Dieu, sans être un fou ou un mystique, un homme responsable, une femme responsable, mais t'es branché sur les choses du Seigneur, tu as fermé la porte au monde extérieur, aux photos, aux toutes sortes de ce monde agressif, impudique, de plus en plus. C'est odieux ce que nous avons en France. Vous savez, il y a un frère canadien qui nous a dit dernièrement, qui est passé chez nous, et nous a dit, mais si dans ma région au Québec, il y avait autant de publicité d'impureté, les femmes, les mères de famille, descendraient de leur maison, de leur appartement pour faire la grève, et manifesteraient dans les rues. Disons que c'est intolérable pour leurs enfants. Mais nous sommes en France. Et la France est différente. Et nous avons besoin de fermer la porte et de dire, Seigneur, aide-moi. Je suis agressé de partout, parce que j'entends, parce que je vois, par mes envies et mes tentations. Aide-moi à fermer la porte. Le lieu, et le Père qui est là, dans le lieu secret, te le rendra. Le Père est toujours là dans le sanctuaire. Il t'attend. Un jour, il y a un homme de Dieu, je crois que c'était un homme des pays scandinaves. Il avait l'habitude de chercher intensément le Seigneur, comme ça. Il était l'ami de Dieu. Il avait développé l'amitié avec Dieu. Il aimait le Seigneur. Et puis, à un moment donné, il a commencé à se relâcher. Et Dieu lui a donné une vision. Et voilà ce qu'il a vu. Il s'est vu dans ses meilleurs moments de contact avec Dieu. Et là, lui sont apparus des anges. Et il se voyait prier, se voyait communier avec Dieu, le chanter, etc. Et puis au terme de ces moments d'intimité, il voyait les anges qui partaient comme pour accomplir une mission. Et finalement, c'était comme pour lui dire, tout ce que tu as demandé au Seigneur, les anges, les serviteurs de l'Éternel vont accomplir ces choses-là. Ce sont les serviteurs de Dieu, ils vont faire ce que tu as demandé. Et puis, ensuite, il s'est vu dans sa période beaucoup plus, moins forte au plan spirituel. Et à un moment donné, là où il se tenait d'habitude, il n'y était plus. Et les anges étaient là, les bras croisés, attendant, désespérément, que l'homme de Dieu revienne chercher le Sauveur. Il n'y avait plus de mission, il n'y avait plus rien. Vous imaginez l'importance que nous avons, vous et moi, l'importance de la communion avec le Seigneur, parce que les anges attendent tout cela. Le monde céleste est prêt à bouger. Le monde céleste est prêt à activer les choses, à débloquer les situations. Mais passons-nous. Passons-nous. Passons sans l'Église. Et c'est pourquoi l'Église doit être sur la brèche. Et c'est pourquoi l'Église doit nourrir une sainte et glorieuse passion pour Jésus et être renouvelée en permanence dans cette passion, parce qu'elle diminue cette passion. Le diable veut nous faire sortir de notre position initiale. Et c'est là tout le combat et tout l'enjeu de ce combat pour chacun de nous. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était déjà tenu en présence de l'Éternel. En présence de l'Éternel. Et je conclue. Qu'est-ce qui se passe en présence de l'Éternel? Alors, c'est ce que j'appelle personnellement la prière ou la communion diététique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous mangez un repas équilibré, il y a tant de glucides, tant de lipides, tant de protéines, etc. Bon, il y a des moments où il y a plus de glucides que de protéines.
Il y a des moments comme ça, quoi, où il y a plus de bon.
Mais d'une manière générale, nous essayons quand même d'être à peu près équilibrés pour que nous soyons en bonne forme et minces comme moi. Vous voyez, on essaye. La vie avec Dieu doit être, ce contact avec Dieu doit être aussi un moment d'équilibre spirituel dans le sens où nous réunissons un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre d'être bien avec le Seigneur. C'est-à-dire, quel est le contenu de ta relation avec Dieu, ta communion avec Dieu, ton culte personnel, ta prière, qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, tu dois retrouver un certain nombre d'éléments. Alors parfois, certains éléments seront plus intenses que d'autres, tout comme pour le repas que tu prends. Mais on doit quand même, d'une manière générale, retrouver l'ensemble de ces éléments. Premièrement, c'est pas parole d'importance, mais premièrement, tu dois avoir dans ton temps avec Dieu un moment d'adoration. Et j'ai envie de te poser la question, mais où est Jésus dans ton temps de communion? Où est Jésus? Parce que souvent, ce sont nos besoins qu'on expose. Oui, Seigneur, alors tu vois un problème au boulot, tu vois, Seigneur, le patron est insupportable, tu vois, Seigneur, que mon pasteur est trop long, tu vois, Seigneur, que ceci, tu vois, Seigneur. Mais où est Jésus? Et le Seigneur pourrait croiser les bras et dire, mais tu t'occupes un peu de moi? Est-ce que tu t'intéresses à moi pour ce que je suis moi? C'est-à-dire, est-ce que nous cherchons Dieu pour Dieu? Ou est-ce que nous cherchons Dieu pour nous? Voyez la différence. Et il est important que nous cherchions Dieu pour Dieu. Donc, dans le temps de communion que tu as avec le Seigneur, il faut qu'il y ait de l'adoration. Loue le Seigneur, concentre-toi sur Jésus, adore Jésus, mets Jésus au centre de ta relation, alléluia, exalte-le, célèbre-le, aime-le, confesse que tu l'aimes, parce que Jésus a dit à Pierre, m'aimes-tu? Voyez-vous, Dieu a des besoins, on n'y pense pas à ça, nous on voit des besoins, mais Dieu a des besoins, lequel? Celui de se sentir aimé de ses enfants. Et c'est pourquoi Jésus a dit à trois reprises à Pierre, m'aimes-tu? Comme si Jésus disait, j'ai besoin que tu me le dises, et que ce soit vrai. J'aime entendre que tu m'aimes. C'est formidable. Les épouses, vous aimez bien quand même que vos maris vous disent, je t'aime. Hein? Je t'aime. Ça, c'est important. Et quand on ne le dit plus, à un moment donné, on est rappelé à l'ordre. Ça fait longtemps que tu ne m'as pas dit que tu m'aimais. Oh, pardon, je t'aime. Vous voyez? Et c'est pareil avec Dieu. Dieu a besoin d'être aimé, c'est en lui. Il nous aime, mais en même temps, il veut être aimé. Et c'est pourquoi il y a un temps d'adoration. On est là, oh Seigneur, je t'aime. Je t'aime pas encore tout à fait bien, mais je t'aime et je veux t'aimer davantage. Qu'est-ce qu'on doit encore trouver? Peut-être des moments de confession. Le fait de dire, Seigneur, ça c'est pas clair dans ma vie. Y a-t-il quelque chose qui ne gasse pas dans ma vie? Et puis le psalmiste, sonde-moi, connais mon cœur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. C'est important d'être vrai avec Dieu, transparent, et de dire, Seigneur, s'il y a quelque chose dans ma vie qui est comme un grain de sable dans ta relation avec moi, tu me le révèles. Qu'est-ce qu'on doit trouver encore? Des requêtes. C'est-à-dire parler à Dieu pour nos besoins. Et on a des besoins, nous sommes des paquets de besoins, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, etc. Il y a des besoins. Qu'est-ce qu'on doit encore trouver? De l'intercession. C'est parler à Dieu en faveur des autres. Et tu pries pour les uns, tu pries pour les autres, tu intercèdes. Et puis, je conclue, il doit aussi avoir, me semble-t-il, des moments de silence. La communion avec Dieu, c'est aussi le silence. D'ailleurs, Samuel a dit, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Il n'a pas dit, écoute Seigneur, ton serviteur parle. Et parfois, finalement, notre communion avec Dieu, c'est un monologue. Seigneur, le Seigneur veut dire, écoute, tais-toi. Tu me saoules. Et finalement, ça m'arrive, moi, de dire, bon, Seigneur, voilà, après avoir loué, après avoir confessé des choses, Seigneur, là, après avoir
apporter des requêtes pour mes besoins. Il faut qu'on réponde aux besoins. Après avoir intercédé pour un tel, une telle, pour des situations, des pays, des villages, bref, je me dis, voilà Seigneur, maintenant, je suis là, en ta présence. Je laisse le Saint-Esprit faire ce qu'il a fait. Tu sais, je suis là, sa présence. C'est formidable. On est dans la présence du Seigneur. Il n'y a rien qui tremble sous mes pieds, il n'y a rien qui s'ouvre en haut, je ne vois pas d'ange, mais c'est la pratique, finalement, de la présence de Dieu. La pratique de la présence de Dieu. C'est très important, ça. La pratique de la présence de Dieu. Je suis dans ta présence. Alléluia, je te loue, Seigneur. Voyez, prière spontanée, instantanée. Tu passes devant ton lycée, tu le bénis au nom de Jésus. Tu vois un gars qui... Dans la rue, tu te dis, Seigneur, étends tes mains. La pratique de la présence de Dieu. Tu as un petit moment, tu es là. Personne ne le sait, mais toi, tu es branché sur les choses de Dieu. Tu te laisses conduire, tu es inspiré. Il y a, oh là, c'est formidable ces moments-là. Gloire à Dieu. On se souviendra de ce texte. Donc le premier point, la priorité des priorités pour chacun de nous. Le reste, tout ce qui concerne les dons de l'esprit, la vie de l'Église et tout ça, c'est important. Mais sans ça, c'est rien. Le principal dans notre vie pratique, c'est vraiment ça. C'est d'être les compagnons, Hébreux 3, verset 14, version Tob. C'est d'être les compagnons de Jésus, pourvu que nous tenions fermement notre position initiale. Alors, ce soir, merci Seigneur, vous l'avez déjà fait, ce n'est pas parce que je suis là que vous le faites maintenant, vous l'avez déjà fait auparavant, j'en suis persuadé, mais c'est quelque chose que le Seigneur enfonce encore plus dans vos cœurs, comme une priorité, une injonction céleste. C'est capital. Sinon, vous ne tiendrez pas. Vous ne tiendrez pas. Mais si vous faites ça, si vous gardez cette position initiale et que vous développiez l'amitié de Dieu, Dieu votre ami, vous son ami, et que vous fassiez comme Abraham a fait, Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il était d'habitude pour chercher la présence de Dieu, et bien finalement, il y a de bonnes choses qui vont s'ouvrir pour votre vie. Et vous allez remporter des victoires intérieures, des guérisons. Vous allez être des colonnes dans la maison de Dieu. Le Saint-Esprit va vous utiliser. Vous allez gagner des âmes. Vous allez édifier les gens autour de vous. Vous allez contribuer comme David au dessein de l'Éternel dans votre génération. Vous allez brûler du feu de Dieu. Il y aura quelque chose d'enthousiasmant et puis vous allez rayonner d'une grâce particulière que le monde ne connaît pas. C'est quand même une différence, elle doit être existante entre les enfants de Dieu, les jeunes, et puis les jeunes du monde et les gens de notre génération. Il y a une différence. Eux n'ont pas la marque, nous l'avons. Eux, pour beaucoup, ils ont la marque de la flétrissure, nous avons la marque de la grâce. Le sceau de l'esprit. Merci Seigneur. Alors, dès ce soir, il y a quelque chose à faire. Demain, il y a quelque chose à faire. Et ne laisse pas le diable te sortir de ta position initiale. Il t'attend au tournant, hein, l'ennemi. Tu verras, hein. Ça va être très vite, hein. Vite fait. Il t'attend au tournant. Mais tu vas être ferme. On se souviendra de ces cercles, les multitudes, les 70, les 12, les 3, les gens. Qui a posé son oreille sur la poitrine du maître.